Musique du monde. Laurence Alloa. Tegui Mfatroré. Musique du monde sur RFI.
Bienvenue dans la session live qui reçoit aujourd'hui Emel Matlouti, avec qui nous allons entretenir une correspondance entre Tunis et Paris, entre l'Europe, l'Afrique et les États-Unis. Emel sort un double album, Tunis Diaries, qui raconte son année 2020, sa quarantaine en temps de pandémie entre son père et sa petite fille. Trois générations sous le même toit et tout va bien. Un double album est à la clé, évidemment. Emel est en piste avec le titre Holm. Bonsoir. Emel Matlouti sur RFI dans les musiques du monde.
La session live. Musique du monde.
Sont les joies de l'enchaînement après le titre Holm en tant ta-ta-ta-ta-ta, musique du monde, session live. Holm, bonsoir Emel Matlouti, comment allez-vous?
Très très bien.
Très très bien, dit-elle. du rouge à lèvres, plein les lèvres. Holm, c'est un titre qui existait sur l'album précédent, Everywhere We Looked Was Burning. Là, vous venez pour un double album qui est un petit peu particulier, que vous avez appelé Les Correspondances de Tunis, The Tunis Diaries. Il y a deux CD. Le premier est une relecture de votre répertoire. Vous avez déjà quand même sorti trois albums. Et vous les avez fait en version minimaliste, puisque vous étiez en quarantaine à Tunis, c'est ça ?
Tout à fait. Donc, Holm ne fait pas partie de Everywhere We Looked Was Burning.
Sorry.
Il fait partie de Tunis Diaries, donc je l'ai enregistré pour l'occasion. Et c'est un peu le titre qui a un peu déclenché toute l'expérience, parce que à ce moment-là, je pense que beaucoup de gens, publics et artistes y compris, ont trouvé beaucoup, beaucoup de réconfort dans les lives. Instagram, Facebook, voilà, tu prends ton téléphone, tu te mets en live et tu commences à chanter. C'était une façon pour moi de me retrouver, parce que c'est quand même une période où on s'est tous un peu sentis perdus, et il y a un vieux dicton qui dit « quand on ne sait plus vers où aller, il faut se rappeler d'où on vient ». Et donc moi, ça a naturellement reprendre un peu même une guitare classique, une guitare que j'ai pas jouée depuis que j'avais 18 ans, et de reprendre un peu ce format très acoustique, très épuré, très spontané, m'a permis vraiment de me concentrer sur l'amour de la musique, l'amour du chant.
Et donc vous étiez à Tunis, vous habitiez chez votre papa ?
Oui, je suis partie en voyage familial pour fêter l'anniversaire de mon père. Et au bout de 2 semaines, on s'est retrouvés confinés. Donc je crois que je n'ai pas vécu avec mon papa depuis une bonne dizaine d'années au moins. Et en fait, ça s'est très bien passé, vraiment. Je pense que les expériences culinaires avec grandes conversations sur l'histoire et les civilisations ont été très, très enrichissantes pour moi. Et j'ai réussi quand même à me dégager quelques heures l'après-midi. Je montais tout en haut la chambre sur la terrasse. Ma fille et mon père étaient censés savoir qu'il fallait pas me déranger. Je me suis dit que... Parce qu'en fait, moi, je me suis jamais vraiment enregistrée professionnellement. Je m'enregistre un peu pour faire mes démos, pour composer. Et là, je me suis mis un challenge de vraiment faire sonner toutes ces émotions-là, de retrouver ça un peu sur enregistrement.
Le titre « Holm » que vous avez interprété en début d'émission est une vidéo qui a très très bien marché. Vous avez fait 1 700 000 vues, peut-être qu'il y en a encore un peu plus aujourd'hui.
C'est pas quelque chose à laquelle je fais vraiment attention, mais c'est vrai que depuis quelques années, les chiffres, c'est devenu quelque chose d'essentiel. Donc, surtout que moi, en fait, au début, je me suis enregistrée dans ma petite chambre du haut et j'ai posté ça. Et vu l'engouement, en fait, et vu vraiment l'intérêt des gens, je me suis dit, en fait, ça serait bien que j'enregistre ça un peu plus sérieusement. Et après, j'ai grugé un peu sur la terrasse des voisins, qui était un peu plus haute. Et j'avais 10 minutes avant l'appel à la prière, et avant que la lumière ne tombe. J'ai fait 2 prises et j'ai balancé ça. Et ce que je tire de ça, c'est que finalement, l'émotion vraie, juste, pure, elle passe à travers la musique, à travers la voix, à travers l'écran. Et elle peut connecter les gens d'une manière extraordinaire. Est tellement puissante. Et c'est ça qui est plus important que les chiffres même.
C'est Tunis Diaries, c'est 2 albums. Il y en a un que vous avez appelé Day, la journée, et l'autre Night. Le Day, c'est tous ces titres que vous avez repris de votre répertoire, et Night, ce sont les reprises. Alors les reprises, vous êtes assez éclectiques. Hein. Il y a Rammstein. Rammstein, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est la cavalerie lourde allemande. Il y a Placebo, il y a Leonard Cohen, Jeff Buckley, les Cranberries. Alors là, moi, il fait rire, c'est sur Black Sabbath. Et il y a Bowie aussi qu'elle interprétera tout à l'heure.
C'est quand même audacieux de faire des reprises de tous ces gens-là, parce que c'est des chansons extraordinaires, éternelles, intemporelles. Mais moi, en fait, quand j'ai démarré justement dans la musique, j'ai commencé, comme tout le monde, j'ai commencé par reprendre des chansons. Et moi, j'étais très contente comme ça à l'époque. Je n'avais pas forcément la prétention d'écrire des chansons. Et puis là, en fait, pendant le confinement, quand j'ai fait donc les petits lives sur Internet, j'avais pas du tout envie de me prendre la tête à essayer de reprendre tout mon répertoire. Et je voulais vraiment me faire plaisir. Et petit à petit, j'ai commencé à retrouver justement la reprise que je fais de Jeff Buckley, qui est d'ailleurs une chanson qui est devenue très importante dans mon répertoire des dernières années, parce qu'on en a fait une version assez cinématique, très électronique, qui pour moi a défini le son qui a atterri sur mon dernier album Everywhere We Looked Was Burning. Et là, en fait, je l'ai retrouvé en guitare-voix comme à mes débuts. Et je me suis dit, en fait, que ça serait intéressant, parce que tout ça, je ne l'ai jamais enregistré. Donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant que j'enregistre toutes ces reprises et toutes ces chansons qui m'ont donné tellement envie de chanter, tellement envie d'être chanteuse, d'être musicienne.
Black Sabbath, c'est heavy metal, c'est la Grande-Bretagne, c'est fin 60, début 70, Ozzy Osbourne.
Alors moi...
La drogue.
Donc ma génération...
Genre, la drogue. Oh non, du thé vert. Je vous écoute.
Donc moi, j'ai découvert Black Sabbath via Metallica, hein, sans No Judgment. Hein. L'album Garage, quand ils ont repris plein de gens. Donc moi, c'est vrai que j'ai connu Black Sabbath tardivement.
Et oui, vous l'avez connu par Nirvana, parce que lui aussi avait fait The Man Who Sold the World sur un MTV Unplugged de mémoire.
Oui, exactement. Donc moi, la version que je connais, c'est celle de Nirvana. Mais après, quand j'ai découvert celle de Bowie, ça fait toute la différence, évidemment. Il y a une telle dramaturgie dans sa voix, dans son interprétation. Quand j'ai fait la découverte de Black Sabbath, c'est un groupe qui ne m'a pas vraiment inspirée. Mais je me suis dit, en fait, je me sens tout à fait dans la descendance de ces gens-là. Leur son, leurs chansons. Donc à un moment, je me suis fait toute la discographie avec ma petite, qui était aussi très intéressée.
Elle aime le heavy metal, d'accord.
Elle aime bien Black Sabbath, en tout cas. Et un jour, j'ai découvert, en faisant des concerts avec un groupe de stoner rock qui s'appelle Om, dont le chanteur Al Cisneros est très, très fan de Black Sabbath. Et donc, on a entendu cette chanson. Sabbath Bloody Sabbath. Et plusieurs mois après, donc quand le confinement est arrivé, j'ai senti que cette chanson, elle était faite pour moi, elle était faite pour ma voix, il fallait absolument que je la chante. Et donc, j'ai écrit un mail à Al et je lui ai dit, tu sais, le jour, en décembre dernier, on était assis à cet endroit-là et à un moment, il y a une chanson, il m'a dit, oui, Sabbath Bloody Sabbath. Donc, il était tellement fan qu'il savait exactement à quel moment.
Extrait, justement, de ce titre de Black Sabbath. Et maintenant, on va voir la version Emel Matlouti de Black Sabbath. version Emel Matlouti de Black Sabbath. Ça fait partie de ce double album qui s'appelle Tunis Diaries, la partie D, c'est votre répertoire revu en guitare-voix. Et puis la partie Night, la nuit, avec ses reprises. Vous savez dans quelles conditions David Bowie avait enregistré cet album? Bon, c'est les années 70, vous n'étiez qu'une hypothèse, Emel Matlouti. Vous n'étiez pas là. C'est l'époque hippie, ils vivaient tous dans un manoir dans le Kent, tous ensemble, dans un manoir victorien très étrange. Et à cette époque-là, il était très amoureux, donc le disque, il n'en avait pas grand-chose à faire. Il était surtout avec sa copine en train de faire des galipettes. Donc Tony Visconti, son producteur, a beaucoup ramé pour le faire enregistrer. Vous avez fait comment ?
J'ai beaucoup ramé pour me faire enregistrer. Surtout que j'avais plusieurs rôles. C'était le confinement. J'étais la seule à pouvoir sortir, faire les courses, ramener les courses. J'avais lisé toutes les courses, faire l'école à la maison, faire à manger, jouer avec la petite. Et à un moment, je me suis motivée. J'ai fait tout le nettoyage de la maison, chose que je n'ai jamais fait et que je pense personne n'a jamais fait avant. J'ai vraiment pris pièce par pièce, tiroir par tiroir. Et c'était important psychologiquement pour moi. Et puis arriver tout en haut, c'était quand même une pièce où on avait tous nos manuels scolaires, toutes nos archives. Donc du coup, j'ai vraiment tout nettoyé. J'ai cassé le bureau en deux, j'ai juste laissé une planche. J'ai mis une fouta dessus. Et
une petite couverture qu'on met pour aller au hammam.
Voilà, exactement.
En coton léger.
Pour avoir le truc. Je me suis mise au coin entre deux fenêtres pour vraiment avoir bien la vue. Et j'utilisais un gros dictionnaire et un gros livre sur Staline pour élever de la bibliothèque de mon père, pour élever donc mon zoom. Que miraculeusement j'avais réussi à choper un mini USB câble qui est très 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 rare maintenant. Et donc avec ce câble, le zoom devenait par magie comme une carte son. Et donc voilà, une fois calé à la bonne hauteur pour capter ma voix et ma guitare à la fois, parce que j'avais pas du tout la patience à faire des guitares et puis repasser la voix. Donc j'ai fait le truc un peu vraiment live. Roots, moi je suis pas très rigoureuse techniquement et rythmiquement, moi il faut que je fasse un coup, voilà. Et d'ailleurs moi je pensais même pas le sortir cet album, parce que je pensais pas que ça allait être bien techniquement, ou même au niveau du son, ou même au niveau des prises, etc. Parce que j'ai été en marathon, je savais pas forcément, bon, finalement je suis restée 2 mois à Tunis, mais quand j'ai commencé mes enregistrements, j'ai commencé un peu la deuxième moitié. Et je savais pas quand c'est que j'allais rentrer. Je savais qu'il fallait quand même au bout d'un moment que j'aille retrouver mon amoureux, que la petite retrouve son papa et que je puisse ne plus être un parent seul à 100%. Et donc du coup, j'étais dans un marathon. Il fallait que j'enregistre 2 titres par jour, un l'après-midi, un le soir. Et aussi essayer d'écrire des nouvelles chansons, parce que moi, Dès que je passe une semaine sans faire rien de créatif, je suis quelqu'un qui stresse énormément sur ça. J'en ai besoin pour ma survie mentale et physique. Et donc voilà, je suis partie. C'est vraiment... Dès que je commence à chanter, en fait, j'oubliais tout le reste. Et ça coulait assez fluidement. Et puis j'ai réussi quand même à maîtriser... Techniquement, c'était pas un dispositif très complexe, mais les oiseaux et puis les grenouilles le soir et les cigales, tout ça, ça m'a aidé. Ça m'a mis même le berger qui venait, parce qu'on a une colline derrière.
Et, vous êtes dans quel quartier à Tunis ?
Je suis dans une banlieue de Tunis, ça s'appelle El Manza. C'est à peu près à une demi-heure du centre-ville. Mais on est vraiment sur les hauteurs. D'ailleurs, pendant plusieurs années, c'était de la boue jusqu'aux genoux. Il n'y avait pas du tout de voiture accessible ou de taxi. Ça s'appelle Fajrir, qui c'est comme Wuthering Heights.
Les hauts du vent.
Ouais, c'est un peu parce qu'il y a énormément, énormément de vent. C'est un peu comme les collines de Hollywood. C'est resté encore préservé. D'ailleurs, j'ai redécouvert tout ça avec des grands yeux d'ancien enfant. Parce qu'en plus, c'était le printemps, donc il y avait toutes les fleurs sauvages, c'était bien vert. Et puis, la vue devant moi, c'est une cascade de le blanc des maisons avec les bougainvilliers, le vert des pins jusqu'à la mer et les montagnes, la montagne de Boukhornine. Donc j'étais quand même assez privilégiée de ce côté-là.
Ça vous a changé de New York où vous vivez normalement à l'année ?
Oui, ça m'a complètement changé de New York. Alors moi j'aime beaucoup New York, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément le même horizon, le même accès à l'horizon. Et aussi de se retrouver avec la vue de ma Méditerranée chérie, puis même les montagnes, les couleurs, le ciel. Ça c'est quelque chose qui restera toujours très 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 particulier pour moi.
Je vous fais écouter un extrait de The Man Who Sold the World de David Bowie, donc la version originale, et puis après en live, on écoute d'abord un petit extrait. We passed up on the stairs. We spoke of what and when. Although I wasn't there, he said I was his friend. Which gave us some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Une chanson étrange, hein, The Man Who Sold the World, ça raconte, enfin avec David Bowie on ne sait jamais exactement le fin fond de l'histoire, mais enfin il est possible qu'il parle de la schizophrénie de son demi-frère qui s'appelait Terry Burns, ils avaient la maman en commun et qui s'est suicidé dans les années 80, donc ça parle de dédoublement de personnalité probablement. Je ne sais pas si vous connaissiez le thème de la chanson, qu'est-ce qui vous a plu dans ce morceau pour que vous ayez envie, vous, de vous y mettre ? C'est une chanson qui a quasiment 50 ans.
Moi, je crois que je l'ai reprise la première fois en 2015. Je trouve que cette chanson, elle a tellement de mélancolie dedans, ça me touche, elle me touche énormément, qui existe vraiment que dans la voix et l'interprétation et l'univers de David Bowie. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique mélancolique.
Un homme qui avait aussi une passion pour le visuel, pour le vêtement. Il a toute la période Ziggy Stardust où il était habillé de manière absolument démente. Vous aussi, l'environnement le plus proche de l'homme, le vêtement, vous y accordez une grande importance. Vous avez beaucoup porté du Hazdin Alaya. Et à son âme, l'importance du vêtement, la scène, c'est un endroit où on doit faire quelque chose de particulier. Il faut faire quelque chose pour les oreilles, pour les pieds, mais aussi pour les yeux.
Oui, oui, absolument. Alors, je pense que le premier réflexe, c'est un peu de se déguiser, d'avoir un rôle pour justement. Moi, j'ai pas du tout la même émotion et la même énergie et la même sensation que dans toutes les fringues que je mets sur scène. C'est-à-dire que ça change, mais d'une manière très spéciale. C'est-à-dire que cette tenue, par exemple, me donne beaucoup de confiance.
Donc l'habit fait le moine.
D'une certaine manière, oui. Après, c'est amusant, quoi. C'est vraiment, la scène, c'est vraiment le seul endroit où on peut être qui on veut, comme on veut. Et c'est vraiment cet instant un peu suspendu, hors du temps. Et du coup, j'aime bien me permettre plein de folie autant que possible.
Et c'est dans cette tenue virginale qu'Emel Matlouti va rejoindre sa guitare et son micro pour interpréter deux titres, The Man Who Sold the World, dont on vient d'écouter la version originale, enfin un extrait de David Bowie, et Everywhere We Looked Was Burning. Emel Matlouti sur RFI dans la session live des musiques du monde.
We spoke of was and when.
Music du monde, la session live.
Emel Matlouti, mini concert sur RFI dans les musiques du monde. Plaisir.
Musique du monde. La session live. Sur RFI.
Emel Matlouti est l'invité des musiques du monde dans la session live. Vous êtes limite musique ambiante, hein, musique environnementale japonaise années 80.
Ah bah c'est musique to my ears.
C'est de la musique qui va bien à mes oreilles. J'avais vu que sur un album vous aviez travaillé avec Valgeir Sigurdsson à Reykjavik, qui est un très beau studio. Vous êtes allé enregistrer chez lui en Islande.
Oui, oui.
J'y suis allée aussi, mais un petit peu avant vous. C'est un endroit très feng shui, c'est très agréable. Il y a du bois, le studio est immense. C'était l'ancien producteur de Björk et de Sigur Rós, qui sont deux grandes figures de la musique islandaise. Vous avez une approche. Vous aimez bien les musiques un peu étranges, j'allais dire presque les musique du Nord, mais de l'Europe du Nord, là où vivent toutes les vieilles déesses européennes, les trolls, les fées, les choses un petit peu bizarres.
C'est vrai que je suis très fascinée par la Scandinavie, les musiques anciennes de là-bas aussi.
Alors je vous ai demandé de faire une playlist après la session live, et comme ça ça nous permet d'écouter des gens qu'on connaît pas forcément, qu'on passe pas forcément dans l'émission, puis ça nous donne aussi une idée sur vos goûts, votre curiosité. On démarre avec un compositeur argentin, Osvaldo Goli, le J-O-F.
Oligoff.
Bon, d'accord. Bah, parlez-moi de cette découverte de ce monsieur.
J'étais en voiture, upstate New York, sur la route de Woodstock avec la petite. Et puis j'ai trouvé la seule radio que j'ai écoutée tout l'été, c'est qui passait beaucoup de musique classique. Et un jour, j'ai entendu ça et ça m'a complètement, limite j'ai failli m'arrêter sur la route, et d'ailleurs c'est une collaboration, le titre c'est une collaboration avec Kronos Quartet, et tout d'un coup j'ai eu cette réalisation, je me suis vue un peu dans cette musique, et c'est important en fait, ces quelques moments où on arrive à se comprendre et à savoir exactement vers où on veut aller et qui on est.
Et Maëlle, si vous continuez comme ça, vous allez finir dans la musique klezmer. Ce qui est pas une...
Je suis passée par là.
Vous avez fait un peu de klezmer ?
Oui.
Vous avez bossé avec David Krakauer ou tous ces gens-là ?
Non, c'était en Tunisie, toute seule, avec mes musiciens. Chava, j'aime bien Chava Alberstein.
Oui. Et la musique klezmer, c'est la musique juive d'Europe de l'Est.
Les Klezmatics, ils ont enregistré des...
Là, c'est New York.
C'est plus New York, ok. Oui, mais ils ont fait du klezmer.
Oui, bien sûr. Mais ils sont descendants de Juifs d'Europe de l'Est.
Oui. Mais j'adore la musique klezmer.
Oui. Eh bien, écoutez, la clarinette maintenant. Emel Matlouti, vous nous rappelez le nom de ce compositeur d'origine argentine ?
Oligoff.
Osvaldo Goligoff.
Osvaldo Goligoff.
J'ai vu qu'il avait fait aussi pas mal de musique de films. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait ? Les images, vous avez tourné dans un film, le concert à Téhéran, comment ça s'appelait déjà ?
Nolan Song.
C'est ça.
Ah, mais complètement. Moi, je suis passionnée de cinéma depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de musique. J'ai découvert peut-être la musique à travers la musique classique d'abord, qui est quand même une musique très cinématique. Et après, ma relation avec la musique avait une relation très étroite avec le cinéma. Donc, j'ai découvert beaucoup, beaucoup de musiques qui m'ont influencée dans des films. Et je pense qu'inconsciemment, je compose toujours des chansons qui font très musique de film.
Vous avez choisi aussi une certaine Leïla Samir, je dis bien une certaine parce que je découvre, hein, les trois personnes que vous proposez dans cette playlist, je ne les connaissais pas. Elle est saoudienne.
Je pense qu'elle est égyptienne parce que dans sa musique, il y a beaucoup d'influence égyptienne. Mais en fait, alors elle, pour le coup, j'ai été chercher donc, sur la toile parce que là, je suis en train, depuis quelques mois d'ailleurs, je suis en train de travailler sur un nouvel album de chansons originales. Et là, j'ai pris la décision que pour la première fois, j'allais travailler qu'avec des collaboratrices femmes. J'ai réalisé qu'en fait, depuis toutes ces années, moi qui me considère révolutionnaire et féministe, finalement, j'ai pas participé à la cause tant que ça, parce que je travaille presque exclusivement qu'avec des hommes. C'est des musiciens extraordinaires que j'adore, avec qui je continue à travailler, mais j'ai trouvé que c'était incroyablement injuste pour toutes les productrices femmes sur la place et en devenir, et qu'il y a ce cercle vicieux et que c'est à moi, en tout cas en tant que femme, en tant que musicienne, de rompre ce cercle vicieux où c'est les mêmes producteurs qui tournent. Et donc je suis allée sur le net à chercher et j'ai trouvé une playlist. Heureusement, Spotify a une playlist qui s'appelle Les femmes de la musique expérimentale, et je suis tombée sur vraiment quelques productrices extraordinaires, dont Leïla. Et en fait, son disque, je crois qu'il y a un disque sur Spotify, il a tourné en boucle, que je peux écouter dans plusieurs circonstances différentes. Et malheureusement, je ne suis pas arrivée à rentrer en contact avec elle. Donc peut-être si quelqu'un la connaît.
Je vous fais confiance.
Voilà.
Vous êtes une femme de réseau, à sociaux.
Mais je voulais vraiment qu'on l'écoute aujourd'hui.
Leïla Samir avec le titre « Bridal ». C'est de la musique de nuit, ça, Emel Matlouti. Elle s'appelle Leïla Samir, c'est le titre Bridal. Tagui me disait dans le casque, mais c'est de la techno. Vous aimez bien les musiques électroniques. Dans votre biographie, on vous présente comme une artiste expérimentale. C'est bien.
Ouais, je trouve que c'est bien, ouais, parce que ouais, je suis expérimentale. J'expérimente avec plein de choses, plein d'influences. Déjà, tout le bagage que j'ai apporté en arrivant en France et puis après en allant à New York, et j'ai les oreilles toujours super ouvertes, et là je pense que pour ma prochaine expérience musicale, je vais essayer d'expérimenter, d'aller justement vers des rythmes un peu plus effrénés. Oui, je vais vraiment essayer d'aller à l'extrême parce que jusque-là, j'aimais bien la lenteur et même au niveau du flow, même au niveau de la façon de chanter, je pense que... Et le fait justement de m'entourer de productrices féminines qui sont bien, bien énervées musicalement, rythmiquement... Ça va me faire du bien, je pense.
Je rappelle que votre dernier album est un double album qui s'appelle Tunis Diaries, dont on a écouté des extraits puis que vous avez joué pour nous en début d'émission. Là, on est dans la partie playlist. Alors, le dernier artiste que vous présentez est un artiste très étrange qui a vécu beaucoup dans... Ben, je vous laisse. C'est Beverly Glenn Copeland. Donc, il y a un nom féminin, il y a un prénom féminin, un prénom masculin et puis un nom de famille. Vous avez choisi le titre Avenue. Qui est cette créature ?
C'est quelqu'un que j'ai découvert donc, pendant le confinement. Donc, un de mes amis, le musicien Forrest Swords, qui a lancé un message d'alerte pour une collecte pour aider justement Beverly à subvenir un peu à ses besoins urgents.
C'est pas quelqu'un de jeune, enfin je veux dire, c'est...
Non, ouais. Je pense que si je me trompe, je pense qu'il est dans ses 70 ans.
C'est un homme transsexuel, c'est un transgenre. Il est né dans un corps de fille et puis en fait il préfère un corps de garçon.
Voilà, il est marié. Ça je l'ai découvert vraiment après l'avoir longuement écouté. Donc du coup, le message appelait justement à aller l'écouter, à découvrir qui c'était, à participer à la collecte. Et du coup, j'étais complètement abasourdie, il y avait un lien... D'ailleurs, il avait joué dans un festival dans lequel j'ai joué et que j'aimais beaucoup, il s'appelle le Guess Who, aux Pays-Bas, et qui est un festival très éclectique. Et donc, il jouait ce morceau-là, et en fait, qui donne tellement de la joie de vivre, qui donne tellement... c'est un peu comme prendre un peu une drogue euphorique. Et je trouve ça tellement généreux de la part d'un musicien d'offrir tellement de bonheur, au moins le temps du morceau. C'est un morceau qui est assez long. Et c'est un morceau qui m'a beaucoup accompagnée cet été, soit pour passer des jolis moments en famille avec ma fille, ou alors pour faire un footing. Ou c'est vraiment un morceau que j'ai utilisé de plusieurs manières. Et après, donc, j'ai découvert son histoire, j'étais encore plus touchée. Et finalement, en fait, voilà, sa voix, elle est très touchante, son histoire est touchante, et il a eu un succès assez tardif, si on peut dire ça. Et je suis très contente d'ailleurs, parce que là, récemment, j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses sur lui. Et voilà, je voulais partager ça aujourd'hui.
Bah, c'est très gentil. Je vous propose, je vous engage vivement à le contacter, faire un duo avec lui sur votre prochain album.
J'adorerais. Bonne idée.
Mais je vous fais confiance. Encore une fois, je vous trouve très, très maligne, très futée dans ce domaine. Merci de nous avoir fait découvrir toutes ces musiques et plein de bonnes choses pour la suite. Je ne vous demande pas les prochaines dates de concert parce qu'en ce moment, tout s'annule, donc on ne sait pas. Merci, Emmanuel Matlouti. Vous revenez quand vous voulez.
Merci, Laurence.
À bientôt.